en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres et le laboratoire d'études sur le monothéisme et la société Mabillon ont organisé un colloque international le 7 et le 8 décembre à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à l'Institut de France sur Mabillon, son statut dans l'historiographie française ainsi que son œuvre érudite. La première matinée du colloque était axée sur le thème « Mabillon et son image » du XVIIIe au XXe siècle. Dans ce cadre, Canal Académie vous propose d'écouter la communication de François-Olivier Toiti de l'Université de Tours, intitulée « Marc Bloch et Mabillon ».
Cette année-là, 1681, l'année de la publication du De Re Diplomatica, une grande date en vérité dans l'histoire de l'esprit humain, la critique des documents d'archives fut définitivement fondée. Une grande date en vérité dans l'histoire de l'esprit humain. Le jugement énoncé entre 1941 et 1943 par Marc Bloch est demeuré célèbre. Sans doute, la réputation du moine érudit auprès des historiens doit-elle davantage à la lecture de l'Apologie pour l'Histoire, devenue depuis sa première édition en 1949 et dans le meilleur des cas propédeutique à leur discipline, qu'à un accès plus direct. Pareille référence de la part du cofondateur des Annales d'Histoire économique et sociale pourrait surprendre. Comment celui qui passe avec Lucien Febvre, comme le contempteur par excellence de l'histoire historisante, méthodique, c'est-à-dire celle d'une simple restitution des faits à la rancœ soumise au diktat des documents, principalement, pour ne pas dire exclusivement, documents écrits, afin de prétendre atteindre à l'objectivité d'une science par leur seule transcription, comment celui-ci en serait-il venu à proclamer la gloire de Mabillon, autrement dit, celle de la plus stricte érudition, vite assimilée, pour le citer, à une passion d'antiquaire. Régression face aux avenues envisagées dans la première moitié du XXe siècle par cette avant-garde pétrie de l'essor de l'ensemble des sciences humaines, pour ne pas dire de l'apport quotidiennement perçu des sciences tout court. Aux antipodes apparents des nouveaux territoires conquis par l'économie, par la sociologie, par la démographie, ou l'approche de la culture par les mentalités, s'agit-il d'un détour exotique de médiéviste, même si cette qualification était volontiers réfutée par Marc Bloch au profit de celle d'historien ou de travailleur. L'insistance avec laquelle l'auteur des Rois Thaumaturges ou de la société féodale revient sur Mabillon, un homme qui n'a jamais écrit d'histoire, comme l'accusait le père Mège, son confrère bénédictin, mérite donc d'être mesuré pour être comprise dans sa plus exacte perspective. Quels étranges chemins conduisent Marc Bloch à Mabillon et quel est leur sens? J'évoquerai cet aspect, ce dossier, en trois points qui ne seront jamais, dans le temps qui m'est imparti, qu'une série d'observations. J'ai joint une feuille qui vous a été distribuée dans laquelle vous trouvez un certain nombre de références et en particulier sur la première page, les extraits nombreux, étonnamment nombreux, d'Apologie pour l'Histoire à Mabillon et un relevé des citations, des références d'auteurs assez sommaires au verso de cette même feuille. Je consacrerai donc ma première partie au rapport entre Marc Bloch et l'érudition, ma seconde à Marc Bloch et sa relation à la critique historique, pour enfin envisager sa situation dans l'historiographie. Marc Bloch et l'érudition, tout d'abord, quels sont finalement les guides qui ont pu conduire Marc Bloch à Mabillon? Il faut se tourner tout d'abord vers les maîtres. Gabriel Monod, auteur en particulier des études critiques sur les sources de l'histoire mérovingienne, dont la première partie est consacrée à Grégoire de Tours, Marius d'Avenches. Christian Pfister, qui est éditeur de La vie de Saint-Odile dans les Analecta Bollandiana, en 1894, maître majeur pour Marc Bloch. Il est l'auteur d'une thèse sur Fulbert de Chartres et ensuite d'études sur le règne de Robert le Pieux, publié en 1885. Enfin et surtout, Charles-Victor Langlois, gendre de Marcelin Berthelot, directeur des archives nationales de 1913 à sa mort et professeur en Sorbonne, là où se tiennent les cours réservés auxquels les normaliens ont accès et non pas de manière séparée, cantonnés à la rue d'Ulm. Justement, Cette rue d'Ulm, eh bien, livre un accès absolument direct à l'œuvre même de Mabillon. On peut encore, au fond du couloir à gauche, découvrir en accès libre les deux volumes in-folio du Dere Diplomatica. Et c'est ainsi qu'il faut imaginer que Marc Bloch a pu directement les consulter. En revanche, jamais aucune citation de la revue Mabillon et aucune allusion à Don Martial Besse, collaborateur de Maurras. Je ne sais trop, enfin je crois savoir comment peut-être l'interpréter, mais c'est sans doute pas forcément une preuve d'honnêteté totale de Marc Bloch. Enfin, il faut évoquer, dans ces chemins qui nous conduisent vers qui conduisent Marc Bloch vers Mabillon, l'importance de l'affaire Dreyfus. Cette affaire Dreyfus, surtout où s'engage et où le témoignage capital des érudits, des chartistes, en particulier celui d'Arthur Giry, qui expertise le bordereau de la main d'Esterhazy, s'avère absolument décisif pour la cassation et le second procès de Rennes. Arthur Giry, membre de l'Académie d'inscription à partir de 1896, est l'auteur, en 1894, du très célèbre manuel de diplomatique qui réserve un chapitre complet à l'histoire de la diplomatique. C'est un fait assez rare. On y reviendra peut-être assez rapidement tout à l'heure, et Mabillon est au centre même de cette histoire. Affaire Dreyfus, car elle place finalement l'historien en étroite parenté avec celle du magistrat. C'est peut-être pas un hasard, du reste, si Jadar était aussi magistrat. C'est une métaphore constante, elle est déjà développée par l'introduction aux études historiques de Charles-Victor Langlois et Charles Seignobos en 1894. En revanche, le terme de preuve n'est jamais repris par Marc Bloch. Marc Bloch, toute l'œuvre de Marc Bloch est jalonnée de références à la fois à l'œuvre des bollandistes, les sources éditées par les bollandistes, mais également, bien sûr, donc les Acta Sanctorum essentiellement, mais évidemment, bien sûr, aux Acta Sanctorum de l'Ordini Sancti Benedicti, éditées par Mabillon, comme vous le savez. Les références sont constantes. Depuis l'article sur les formes de la rupture de l'hommage dans l'ancien droit féodal, où il est fait référence au miracle de Saint-Ursmer, au pays autour de Paris, étude sur l'île de France en 1913, et également à partir de 1921, à la suite de la polémique engagée par le père de La Haye à propos de l'ouvrage d'Ernest Babu sur Saint-Martin de Tours dans les Analecta Bollandiana, eh bien, Marc Bloch s'engage pour défendre son ami mort au champ d'honneur, et sa conclusion est éblouissante de perspectives sur l'ensemble des sources et sur leur considération sur l'importance des sources, fussent-elles également fausse. Les rois thaumaturges amènent évidemment à une histoire vers des croyances, des mentalités, des liens sociaux, œuvre essentielle, et là, elle est un véritable florilège de renvoi à Mabillon, en particulier au traité des reliques de Guibert de Nogent, aux vies de Saint-Ouen, Saint-Vendry, Saint-Marcoul, Saint-Hubert, Saint-Roch, etc. Je n'insiste pas davantage. Préparatoire au roi thaumaturge, la publication dans les Analecta Bollandiana par Mabillon de la vie de Saint-Édouard le Confesseur par Osbert Leclar, salué par la critique comme un véritable prodige d'ingéniosité. En réalité, toutes ces sources forment le socle même de la réflexion de Marc Bloch, de son œuvre, qui ne se limite pas aux éditions de Mabillon, qui évidemment investit la totalité du champ, les Royal Series, les MGH, Ming, etc., etc., jusqu'évidemment les archives non publiées directement. Et parmi les critiques les plus courantes adressées aux historiens germaniques par Marc Bloch, extrêmement fréquentes, eh bien on trouvera ce leitmotiv dépourvu de toute preuve. Un emploi rare, mais effectif, du mot « preuve » par Mabillon. Enfin, mesurons la dette que Marc Bloch, indépendamment de l'environnement contemporain, la multiplication des images, doit à Mabillon. L'attention que Marc Bloch porte aux images et celles qui sont notamment reproduites dans les deux volumes du Dere Diplomatica, eh bien, sont parfaitement exemplaires de cette valeur démonstrative de l'image que Marc Bloch entend joindre à l'ensemble de ces démonstrations. Venons-en aux relations de Marc Bloch avec la critique historique. En vérité, pour Marc Bloch, dès 1906, dans ses carnets de jeunes normaliens, la méthodologie historique se concentre essentiellement autour des phénomènes psychiques et des phénomènes sociaux. On croit entendre en écho, du reste, Langlois et Seignobos, qui disent eux-mêmes, dans l'introduction aux études historiques, l'immense majorité des documents qui fournissent à l'historien le point de départ de ses raisonnements ne sont en somme que des traces d'opérations psychologiques. Opérations psychologiques, et par conséquent, il s'agit d'en démêler les fils. Pour Marc Bloch, toujours en 1906, dès 1906, il a 20 ans, l'histoire est un recueil d'expériences. Il ne s'agit pas seulement de publier ce recueil, cette œuvre d'éditeur et non de savant. Il s'agit surtout de l'interpréter et de nuancer. La philologie est peut-être actuellement la seule science humaine qui entrevoit la possibilité de poser des lois. La méthode historique et la méthode critique est, pour Marc Bloch, se conformant au modèle de Mabillon, une voie d'accès. Une voie d'accès à quoi ? À également une valeur qui est martelée en ce début de siècle, qui est celle de la vérité. Et elle rejoint un certain nombre de considérations de Mabillon sur l'amour de la vérité des choses passées, les règles concernant l'accès à la vérité, en donnant notamment, rechercher la vérité, en donnant notamment des originaux aux choses, comme il dit, c'est-à-dire les sources. Cette vérité, eh bien, elle a été déjà, je dirais, célébrée par Ernest Renan avec sa devise « Veritatem dilexit ». Il faut se souvenir que Marc Bloch a repris cette même devise « Dilexit veritatem ». Et je n'hésite pas au plaisir, ému, de vous présenter l'ex libris de Marc Bloch, c'est un original, tel qu'il l'a mis en service à partir de 1931. On le sait car se trouve une fougère derrière cet ex libris, et fougère correspond à la maison qu'il a achetée à Fougère dans la Creuse, à côté du Bourdon, et qui donc se trouve là. Et cette devise de l'ex libris, c'est Veritas vinum vitae, autrement dit, la vérité est la sève de la vie. Et je pense que l'image du pressoir que vous trouverez ici n'est pas sans évoquer un arrière-plan religieux qui renvoie sans doute à l'image du pressoir mystique. Donc cette vérité est proclamée, et elle est proclamée dès 1914 par le discours de fin d'année de Marc Bloch au lycée d'Amiens, à travers cet opuscule intitulé « Critique historique et critique du témoignage ». Un certain nombre des citations que des auteurs cités d'apologie, que vous voyez au verso des documents que je vous ai indiqués, sont déjà rapportées dans ce discours de fin d'année de remise des prix de 1914. Je cite « Nous sommes les juges d'instruction chargés d'une vaste enquête sur le passé, et surgit là l'image de l'archange du portail d'Amiens pesant les âmes. Mais pour Marc Bloch, il ne s'agit pas, et il l'explicite, de mettre les bons à droite et les mauvais à gauche, il n'est guère de mauvais témoins. Les règles de la critique, selon lui, et du témoignage, ne se résument pas à un simple jeu d'érudits. Elles s'appliquent au présent comme au passé. Quelques-uns d'entre vous se trouveront peut-être plus tard revêtus des redoutables pouvoirs du juge d'instruction. D'autres seront appelés par notre loi démocratique aux fonctions de juré. Souvenez-nous alors de la méthode critique. Contre l'esprit de médisance, contre l'esprit de défiance, aussi pour voter. C'est une des routes qui mènent vers le vrai. » On pourrait en dire autant, mais je ne peux pas alourdir ma réflexion, mon exposé, de l'article majeur, évidemment, lui aussi, mais il est difficile de distinguer des majeurs et des mineurs, finalement, dans l'œuvre de Marc Bloch, qui est cet article sur les réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, publié dans la revue de synthèse historique, en 1921, et qui renvoie à la psychologie du témoignage, à l'imagination collective et à la vie de Saint-Bernard, écrite par Guillaume de Saint-Thierry. Je résumerai, il renvoie également, évidemment, à Mabillon. Je cite « Les psychologues ont dû, en cette matière, prendre pour point de départ les règles appliquées pratiquement plutôt que formulées en théorie par les Papenbrock, les Mabillon, les Beaufort, il s'agit de Joseph de Beaufort, auteur de l'expérience de Dieu au XVIIe siècle, et leurs émules. Par un équitable retour, les résultats de leurs travaux, si incomplets encore qu'ils paraissent, apportent dès aujourd'hui aux historiens un secours précieux. Nos défiances jusqu'ici étaient surtout instinctives, elles se fonderont de plus en plus en raison. Notre doute devient méthodique, par là même il trouvera ses justes limites. Et il revient, il n'y a pas de bons témoins, il n'y a guère de déposition exacte en toutes ces parties, mais il y a plus. La critique méthodique du témoignage semble aboutir à une conséquence fort grave, bien qu'assez peu remarquée. Elle a porté un coup très rude à l'histoire pittoresque. Aussi, Marc Bloch s'arrête-t-il à la question des faux récits, les faux récits qui ont soulevé des foules et qui permettent ainsi un dépassement du positivisme. Il s'agit de revenir à un état d'âme, à l'analyse d'un état d'âme collectif, terme sans doute emprunté à Lamprecht, Bassist, Kulturgeschichte, mais dans un sens où la fausse nouvelle ou le faux se répand dans des conditions psychologiques particulières et qui sont eux-mêmes, qui doivent être eux-mêmes objets d'histoire. Pour Marc Bloch, et il y revient dans Apologie, cette méthode érudite renvoie à une morale de l'intelligence, car hors des libres jeux de la fantaisie, une affirmation, je le cite, n'a le droit de se produire qu'à la condition d'être vérifiée. Il s'agit donc bien là d'un premier critère de jugement. Et c'est elle qui finalement, à travers ce dépassement, donne à l'historien sa dimension publique, celle de l'humanité, celle d'un savoir public, et là je me remémore cette définition même que l'on trouve dans Rigaud, qui indique qu'il a écrit la vie de Philippe Auguste et il l'a mûri jusqu'à ce qu'il juge qu'elle puisse devenir publique. C'est un cas très spécifique sur lequel Bernard Guenet s'est penché en analysant justement cette notion de publicité ou de bien collectif que doit être la science. En réalité, Marc Bloch, dans tout l'ensemble de ses références, ne se situe pas dans la mouvance totale de Descartes, celle du doute radical, mais plutôt dans celle de Spinoza, qui est celle de la compréhension de l'être, de la compréhension des phénomènes, et dans la logique de probabilité de John Locke, qu'il cite dans Apologie pour l'histoire. Critique, et il s'agit de faire passer le mot, comme pour Langlois et Seignobos, car le terme est toujours vu à cette époque de manière péjorative. Critique, il faut en faire comprendre l'acception positive. L'erreur est aussi une trace analysable en soi. Autrement dit, selon cette question classique que nous posons régulièrement à nos étudiants, en quoi un faux authentique peut-il constituer aussi un original ? Il n'y a pas de bons ni de mauvais témoins, il n'y a finalement que de bons ou de mauvais observateurs des témoins. Et j'en arrive à ma dernière partie, consacrée au rapport entre Marc Bloch et l'historiographie. Il s'agit de prouver, toujours et encore pour Marc Bloch, la légitimité de l'histoire, et au-delà, en poser les fondements épistémologiques comme science. À quoi sert l'histoire ? C'est un débat majeur en réalité, face aux enjeux des autres sciences, aujourd'hui on qualifie de sciences dures, mais c'est aussi un débat majeur, nous l'avons oublié, face à l'anti-historisme, qui a pu se manifester à travers en France, à travers Peggy ou Valérie, mais qui a été porté, je crois, à son sommet, ou plutôt dans ses abysses, par Nietzsche, définissant l'histoire comme nuisible à la vie. En posant la question, Marc Bloch précise, par l'une des rares notes d'Apologie, s'opposer à Charles-Victor Langlois et Charles Seignobos. Car en fait, là où Charles-Victor Langlois oppose les sciences d'observation directe à celles d'observation indirecte, Marc Bloch persiste à vouloir ne pas les renvoyer dos à dos, mais à chercher à en définir des voies. Il s'agit des les lois, pardon. L'objet de Marc Bloch n'est donc pas d'introduire à la méthode documentaire. L'affaire est entendue, les différents éléments propres à la critique sont prérequis. Critique externe, déchiffrement, restitution, etc., provenance, interprétation, sincérité, exactitude. Tout ceci constitue le socle primaire, acquis, primordial. Mais les renvois à Mabillon et la pléthore des référencements qui affectent son exposé critique dans l'Apologie pour l'Histoire contrastent fortement avec celle de ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs n'ont que de très rares renvois, et généralement, ils sont allemands. Ici, on observera, au dos de la feuille que je vous ai proposée, que ces références sont très largement françaises. C'est donc un parti pris, je crois, ou en tous les cas, une trace qui s'oppose à la génération qui le précède. La position de Langlois et Seignobos vis-à-vis des prédécesseurs est claire. On ne lit plus des œuvres dépassées, cela concerne aussi Mabillon. Et d'ajouter toutefois en note, L'histoire de l'historiographie moderne reste à faire et de souligner la dépendance de l'historien au présent. En réalité, pour eux, malgré sa complexité extrême, Langlois et Seignobos, la nécessité absolue de la critique historique est, là encore, primordiale. Pour Marbloch, comme je l'ai dit, la leçon est parfaitement assimilée. Mais désormais, la question qui se pose, c'est comment puis-je savoir ce que je vais dire ? Eh bien, pour y répondre, il s'agit de présenter au lecteur le travail d'investigation lui-même. Le spectacle de la recherche, avec ses succès et ses travers, c'est rarement ennuyeux, dit-il. Et il s'agit essentiellement, je le cite, d'une hygiène morale. Et il s'agit bien là du deuxième critère de jugement. Il s'agit donc bien là, dans ce florilège de renvois, d'une objectivation de l'historien par rapport à la subjectivité dans laquelle il s'inscrit. S'expliquant dans la société féodale sur l'importance et la disposition de ses référencements, Marc Bloch signale « Un tribunal, après tout, l'état civil des témoins importe tout autant que celui des avocats. » Une des toutes premières œuvres historiques à faire état d'une bibliographie historiographique indépendante de la rhétorique introductive de captatio malevolentiae, c'est-à-dire de critique des prédécesseurs, eh bien, c'est la société féodale. Les rois de thaumaturge l'avaient totalement intégré à la présentation du dossier, préfigurant ainsi la mise en abîme de l'analyse des discours sur les discours accompagnateurs du cours de l'histoire. J'ai cru assimiler cette démarche à une expérience vorticiste, un peu à la manière dont James Joyce développait alors un certain nombre d'expériences psychoanalytiques. Pour terminer, je dirais que la familiarité de Marc Bloch avec Mabillon est constante. D'abord parce que pour le médiéviste, les matériaux considérables accumulés par les érudits de toute nature, mais aussi l'ampleur du brassage documentaire opéré par une société en permanente restructuration, on pensera aux multiples procès sur les droits revendiqués par le roi réducteur de toute féodalité ou de privilège. Par exemple, la réunion des hôpitaux qui nourrit la série S des archives nationales. Ces masses de procès font du filtre moderne une voie d'accès incontournable aux traces plus anciennes. On notera également l'étonnante similitude des propos de Marc Bloch avec l'opuscule de Mabillon, enfin, quand je dis opuscule, c'est par la taille, les brèves réflexions sur quelques règles de l'histoire, rédigées en 1677, dont le manuscrit est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France, manuscrit qui n'a été exhumé qu'en 1999. Marc Bloch l'a-t-il lu ? Je n'ai pas eu l'occasion encore de vérifier dans les papiers même de Marc Bloch, mais je n'écarterai pas cette hypothèse tant il a lu. Enfin, Marc Bloch pose une éthique de la science, une éthique de l'histoire, une éthique de la démocratie républicaine, une absolue nécessité, avaient dit Langlois et Seignobos. En réalité, cette éthique, c'est celle de la critique. Critique rime avec vérité, qui n'est pas ce concept en trompe-l'œil de transparence. Voir à travers, c'est ne rien voir, ou risquer tous les prismes. Il y a donc aussi une dimension politique d'apologie pour l'histoire, au moment même 41-42, où elle est écrite. Un grand pas, certes, mais il en est un autre, désormais programmatique et énoncé dès 1906 par Marc Bloch sur le même mode. L'histoire n'a pas d'existence scientifique. Le progrès capital des sciences de la vie organique a été d'écarter cette notion d'histoire. Du jour où, au lieu d'histoire naturelle, on a dit biologie, du jour où on a cessé de décrire pour expliquer et classer, de ce jour on a fait un grand pas. Ces mots sont les premiers à avoir été rédigés de façon autonome par Marc Bloch. Ils témoignent de la validité des entrées en matière. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de François-Olivier Toiti de l'Université de Tours, Marc Bloch et Mabillon, dans le cadre du colloque consacré à Mabillon par l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 7 et le 8 décembre 2007.